Chapitre 6. Le sas de décompression du soir. Pourquoi 18h est l'heure la plus dangereuse de ta journée et comment la désamorcer? Il y a un moment précis dans la journée que presque tous les cerveaux au câblage différent connaissent intimement, même s'ils ne lui ont jamais donné de nom. C'est l'instant où tu franchis le seuil de ta porte après une longue journée. La porte se referme derrière toi et quelque chose, un mécanisme profond, presque animal, lâche. Pas doucement, brutalement. Comme si un élastique tendu depuis 7h du matin venait de claquer d'un coup. Comme si le personnage que tu as incarné toute la journée, souriant, concentré, adapté, fonctionnel, venait de quitter la scène, laissant derrière lui une personne épuisée, le masque de la journée à tout consommer, à vif, les nerfs à fleur de peau, sans filtre, et affamé d'une manière qui n'a presque rien à voir avec la nourriture. Et là, presque systématiquement, ton corps emprunte le même chemin, direction la cuisine. Ouverture du réfrigérateur, recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait combler ce vide immense qui vient de se creuser en quelques secondes. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une mauvaise habitude que tu pourrais corriger avec un peu d'effort. C'est le résultat prévisible et quasi mécanique d'un phénomène très précis que ce chapitre va nommer, expliquer et surtout désamorcer. Le coup invisible du masque de la journée. Pour comprendre ce qui se passe à 18h, il faut remonter à 8h du matin et à toutes les heures qui se sont écoulées entre-temps. Ce que les autres voient. Suis le rythme, participe aux réunions, répond aux emails, gère ses responsabilités. Ce qu'il ne voit pas, l'énergie supplémentaire dépensée pour maintenir sa concentration dans un open space bruyant, où chaque conversation parasite pénètre le champ auditif comme si elle nous était directement adressée. L'effort constant de filtrage sensoriel dans des environnements lumineux, sonores et imprévisibles. La charge mentale nécessaire pour structurer, planifier et prioriser des tâches que d'autres semblent accomplir sans y penser, tout en gérant l'anxiété latente de craindre d'avoir oublié quelque chose d'important. Pour un cerveau atypique, chaque journée passée dans un monde conçu pour un câblage standard représente un effort d'adaptation constant et silencieux. Cet effort est invisible de l'extérieur, précisément parce qu'il est réussi. Les autres ne voient pas le masque. Ce masque social que beaucoup de personnes aux cerveaux différents portent avec une maestria acquise au fil des années. Ce masque qui dit « je vais bien, je suis comme vous, je gère, tout est sous contrôle », alors qu'à l'intérieur, c'est plutôt un tableau de bord avec trop de voyants allumés en même temps. Porter ce masque a un coût neurologique bien réel. Ce n'est pas une simple métaphore. La chercheuse Devon Price, auteure de Unmasking Autism, décrit ce processus d'adaptation sociale permanente comme l'une des sources les plus importantes d'épuisement pour les cerveaux qui fonctionnent différemment. Un épuisement qui s'accumule silencieusement tout au long de la journée et qui ne se manifeste pleinement qu'une fois l'environnement redevenu sûr, c'est-à-dire chez soi, c'est-à-dire quand la porte se referme. Pourquoi le vase déborde exactement à ce moment-là? Ce phénomène présente un paradoxe apparent qui mérite d'être clarifié. Tu pourrais te demander pourquoi c'est précisément dans l'endroit le plus sûr, le plus familier, le plus confortable, chez toi, que le système s'effondre. Ne devrait-il pas plutôt céder au bureau, là où la pression est la plus forte? La réponse est non. Et elle est logique. Le système nerveux d'un cerveau en ébullition fonctionne un peu comme une cocotte minute. Tout au long de la journée, la pression monte, mais le couvercle reste en place, car l'environnement professionnel ou social l'exige. Le cerveau mobilise ses ressources pour maintenir la contenance, la fonctionnalité, l'apparence. Il tient bon, il serre les dents, il compense. Puis tu rentres chez toi, le couvercle n'est plus nécessaire, l'environnement est sûr. Et la pression accumulée pendant des heures se libère d'un seul coup, sous forme d'irritabilité, une réaction émotionnelle soudaine et disproportionnée, de larmes inexpliquées, le corps libère ce qu'il a retenu toute la journée, de fatigue soudaine, une fatigue qui te cloue sur place sans prévenir, de faim vorace, une vague qui déferle, mais ce n'est pas une vraie faim. Cette faim du soir n'est dans la majorité des cas pas une faim réelle. C'est un système nerveux qui cherche désespérément à retrouver son calme, un apaisement immédiat, une récompense pour avoir tenu toute la journée. Et la nourriture, rapide, accessible, dopaminergique, est la solution la plus évidente que le cerveau épuisé trouve sur le moment. La fenêtre critique des 10 premières minutes. Les spécialistes du comportement et de la régulation émotionnelle ont démontré que la transition entre deux états, entre l'extérieur et l'intérieur, entre le mode social et le mode repos, est une fenêtre de vulnérabilité particulière. C'est dans ces premières minutes, après avoir franchi le seuil, que la probabilité de comportement impulsif est la plus élevée, car le cerveau est simultanément en mode décharge et en mode recherche de récompense. Ces 10 premières minutes sont la fenêtre critique. Ce qui s'y passe détermine souvent la tonalité de toute la soirée sur le plan alimentaire. Si ces 10 minutes sont absorbées par le réfrigérateur, le cerveau a reçu sa récompense dopaminergique, mais c'est une récompense de courte durée, suivie d'une chute qui en appellera une deuxième, puis une troisième, dans une spirale bien connue. Si ces 10 minutes sont utilisées différemment, la soirée se déroule autrement. Pas parfaitement, pas selon un idéal de discipline, juste différemment, plus en douceur, avec beaucoup moins de cette frénésie automatique qui n'apporte jamais de réelle satisfaction. Construire son sas, une transition sur mesure. Un sas de décompression n'est pas un rituel compliqué. C'est une transition intentionnelle, une courte période de 10 à 15 minutes, délibérément placée entre le moment où tu rentres chez toi et celui où tu entres dans la cuisine. L'objectif de cette transition est simple, permettre au système nerveux de passer du mode surchauffe au mode repos avant que le cerveau ne cherche à se récompenser avec de la nourriture. Il ne s'agit pas de l'éliminer totalement, c'est impossible et ce n'est pas le but. Il s'agit simplement de créer suffisamment d'espace entre l'impulsion et l'action pour que l'impulsion perde de son intensité. Ce sas peut prendre des formes très différentes selon les besoins de ton cerveau pour se calmer. Besoin de mouvement, pour évacuer la tension accumulée, une courte marche de 5 minutes autour du pâté de maison, quelques étirements au sol ou danser seul sur une chanson dans le couloir. Ça peut être un besoin de silence sensoriel, s'allonger 5 minutes dans une pièce sombre et silencieuse, troquer ses vêtements de travail contre quelque chose de doux, créant ainsi une rupture physique et tactile avec la journée. Ou besoin d'un exutoire créatif ou émotionnel, griffonner quelques lignes dans un carnet, envoyer un message vocal à une amie pour vider son sac, ou écouter une playlist spécifique réservée à ce moment de la journée. La clé n'est pas ce que tu fais pendant ce sas. La clé, c'est que tu le fasses avant d'ouvrir le réfrigérateur. Que tu crées physiquement et temporellement cet espace entre l'arrivée et la cuisine. Le sablier hyperfocus comme encre visuelle. Pour un esprit papillon, la perception du temps est souvent floue et difficile à ancrer. 10 minutes peuvent sembler une éternité ou s'évanouir en un éclair selon l'état du moment. C'est pourquoi une intention aussi simple que « je prends 10 minutes avant de manger » peut échouer, non par manque de volonté, mais parce que le cerveau perd simplement la notion du temps. C'est précisément le rôle du sablier hyperfocus dans l'application Alma. Ce n'est pas une alarme agressive qui sonne au bout d'un temps imparti. C'est un minuteur visuel doux, une animation apaisante qui représente l'écoulement du temps sans urgence, sans pression, sans signal sonore brutal. Tu l'actives en entrant chez toi. Tu le poses à un endroit visible. Sa simple présence visuelle crée une encre temporelle qui dit à ton cerveau « ce temps est à toi, il est délimité et quand il sera terminé, tu pourras passer à autre chose ». Cette encre visuelle remplit deux fonctions simultanément. Elle protège le sas. Elle protège le sas de décompression en lui donnant une forme concrète et visible. Elle réduit l'anxiété de la transition en signalant clairement au cerveau que la récompense, le repas, le canapé, le reste de la soirée, n'est pas annulée. Elle est juste décalée de quelques minutes. Ce décalage, minime en apparence, change tout dans la pratique. Des techniques passives pour apaiser le système nerveux. Au-delà de la structure du sas, il existe des techniques concrètes particulièrement efficaces pour un système nerveux en surchauffe. Des techniques qui ne demandent ni effort cognitif, ni concentration soutenue, ni énergie particulière. Ce sont des techniques passives, presque automatiques, qui agissent directement sur le système physiologique de régulation du stress. La respiration physiologique. Il ne s'agit pas d'une technique de méditation complexe, mais simplement d'une double inspiration par le nez suivie d'une longue expiration par la bouche. Le neuroscientifique Andrew Huberman de l'université Stanford a popularisé cette technique dans ses travaux sur la régulation du stress en temps réel, montrant qu'elle active rapidement le système nerveux parasympathique, celui qui apaise. Deux ou trois cycles suffisent à provoquer un changement physiologique mesurable. Cela prend 20 secondes. Le changement de vêtements comme rituel de transition. Ce geste simple, enlever ce que tu portais au travail et enfiler immédiatement quelque chose de doux, de confortable, de sensoriellement agréable, crée une rupture physique et symbolique avec la journée. Il signale au corps que le mode surchauffe est officiellement terminé. Pour un cerveau qui traite les informations sensorielles de manière intense, ce changement tactile peut avoir un effet de décompression immédiat et significatif. La coupure sensorielle préventive. Ne pas allumer la télévision, ne pas consulter les réseaux sociaux, ne pas vérifier ses emails professionnels pendant les 10 premières minutes. Pour un cerveau déjà en surchauffe sensorielle après une journée entière de stimulation, ajouter immédiatement un nouveau flux d'informations empêche le système nerveux de redescendre. Le silence, même relatif, même imparfait, est une forme active de récupération. Et si le sas s'effondre quand même? Il y a une question qui mérite une réponse honnête. Que se passe-t-il les soirs où le sas ne fonctionne pas? Les soirs où la jauge est si basse, l'épuisement si profond que même 10 minutes de transition semble une montagne. Les soirs où tu te retrouves dans la cuisine avant même d'avoir posé ton sac, un paquet ouvert à la main avec ce sentiment familier de pilote automatique enclenché. Ces soirs-là arriveront. Ils feront partie du paysage, surtout au début, et particulièrement lors des semaines difficiles. La réponse à ces moments n'est pas la culpabilité. La réponse, c'est le kit de survie du soir. Un ensemble d'éléments préparés à l'avance pour que même ces moments de pilote automatique soient un peu plus doux, un peu plus nourrissants et un peu moins dommageables. Ce kit, tu le prépares un jour où ta jauge est pleine. Il contient des éléments sensoriellement satisfaisants qui répondent à ce que ta bouche recherche à ce moment-là, mais qui sont aussi nourrissants que possible dans ces circonstances. Par exemple, des noix mélangées dans un petit bol déjà prêt. Du chocolat noir, des carrés à côté d'une mandarine, un yaourt grec avec un filet de miel, des crackers complets avec du beurre de cacahuète. Ces options ne sont pas parfaites sur le plan nutritionnel et elles n'ont pas besoin de l'être. Leur seul rôle est d'être là, prête, accessible et suffisamment satisfaisante pour interrompre la spirale avant qu'elle ne s'emballe. C'est le pragmatisme bienveillant au service d'un cerveau épuisé. Et c'est infiniment plus utile que n'importe quel idéal de perfection alimentaire qui ne tient pas compte de la réalité de ces soirs-là.